8h16 minutes, Québec réveille, la matinale de Sequoia qui reprend l'antenne. Et donc, dans le cadre des chroniques du REPAC, la Société John Howard du Québec a pour mission là, d'agir de façon efficace, juste et humaniste face aux causes et aux conséquences de la criminalité. Et donc, on les reçoit ce matin. Mais on reçoit en fait le président du conseil d'administration de la Société, Jean-Claude Bernheim. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Bon, vous êtes venu à pied, c'est le fun, c'est quand même proche.
Oui, oui, je reste prêt, je reste dans, disons, l'atmosphère la plus agréable de Québec.
Ah oui, vieux Québec, vieux port, on aime ça. Ça, c'est vrai que c'est beau. On est chanceux d'ailleurs d'être ici puis d'avoir pignon sur rue sur Saint-Paul. La société, en fait, John Howard offre plusieurs services. Elle vise à aider non seulement les individus là, qui sont judiciarisés, mais aussi leurs familles, leurs proches et leurs communauté. Bon, il y a une nouvelle qui est sortie hier concernant la mort d'un jeune homme de 21 ans qui était incarcéré. Il était censé être libéré. Le tribunal lui avait accordé une libération conditionnelle de 24 heures et donc il est décédé à l'intérieur des murs de la prison de Bordeaux d'une défaillance cardiaque suite à une intervention musclée. C'est quand même assez déplorable ce qui peut se passer à l'intérieur de nos prisons. Bien sûr qu'on va parler de vos services, M. Bernheim, mais j'aimerais avoir votre constat par rapport à cette actualité-là en particulier.
Mais par rapport à cette actualité, je pense que ça dénote le dérapage du système, dans le sens que c'est sûr que gérer une prison, c'est rien de simple. Mais le problème qui se pose, c'est que les principes sur lesquels fonctionnent les prisons aujourd'hui sont similaires à ceux qui ont été à la base de la prison, de la peine de prison, qui remontent à la fin du 18e et début du 19e siècle. Donc, c'est relativement récent. Mais les principes voulant d'exclure les gens qui ont commis des infractions du fonctionnement de la société avec un contexte de répression et particulièrement d'impunité et de censure. Parce que qui sait ce qui se passe vraiment dans les prisons? Qui peut y aller?
Ouais.
On peut constater, particulièrement au niveau du Québec, que les autorités politiques et correctionnelles mettent une chape de plomb sur tout ce qui s'y passe. Et il faut des événements dramatiques comme ceux-ci, malheureusement, pour que on s'y intéresse minimalement, sans avoir la possibilité de savoir ce qui se passe vraiment. C'est pour ça que certains revendiquent avec justesse qu'il y ait une enquête publique sur l'événement, mais aussi le contexte dans lequel se passent ces événements. De faire un bilan du système de justice pénale et criminelle.
Oui.
Parce que, contrairement à l'éducation, la santé, le mariage, l'orientation sexuelle, la prison, le système de justice n'a jamais fait l'objet d'une remise en question
ou d'un sommet quelconque.
Absolument pas.
Quand même.
On s'intéresse à des aspects précis, relativement limités, qu'on réforme éventuellement pour le mieux. Mais ça change pas la base.
Ouais, c'est ça. Et là, c'est quand même une situation particulière et révoltante. Là, je le répète, ce jeune homme qui est décédé à la prison de Bordeaux, alors que le tribunal avait, lui avait accordé une libération conditionnelle 24 heures avant sa mort. On peut s'imaginer quel impact ça peut avoir sur sa famille.
Oui, effectivement, même s'il n'avait pas été libéré, je veux dire, ce genre de décès est dramatique pour tout le monde. Pour les personnes qui l'ont confronté, pour la famille, mais socialement parlant aussi. Même si on n'en parle pas beaucoup, les impacts se répercutent parce que les individus touchés le sont pour la vie. Et, je veux dire, communiquent leurs angoisses, leurs problèmes qui en découlent aux personnes qui les entourent. Donc, ces situations dramatiques qu'on retrouve partout dans la société, je veux dire, quelqu'un qui meurt d'un accident de la route, c'est aussi un drame. Mais encore là, on peut constater que ces drames, pour l'État, suscite pas vraiment beaucoup d'intérêt. Hein. Combien de fois on dit tel coin de rue, telle route est dangereuse. Et puis il faut X morts pour qu'ultimement, à force
on
de
agisse.
Oui.
Ouais. Et ça aussi, ça contribue, et d'ailleurs, dans l'article de Radio-Canada, on le mentionnait, là, la communauté, la communauté qui entourait ce jeune homme-là ne croit plus au système de justice. Ils étaient là quand même 150 personnes à faire une veillée aux chandelles pour lui rendre hommage. Donc, on peut comprendre qu'un événement comme ça, ça aide en rien là, à la confiance qu'on peut accorder au système.
Ah ben ça, c'est très clair. C'est toute l'ambiguïté du système carcéral. C'est que il y a tout un discours politique autour du crime, mm-hmm. comme quoi il faut le contrôler, le réprimer, etc. Mais ce discours politique, finalement, est comme d'agiter un drapeau blanc pour attirer l'attention des gens.
Vers un type de criminel en question.
Sur ouais, un type de criminel, mais aussi loin des problèmes sociaux.
Mm-hmm.
Je veux dire...
Les problèmes de fond, là.
C'est ouais, ça. Je veux dire, les problèmes de santé mentale,
uh-huh,
on en parle, puis on voit pas que ça évolue tellement bien et tellement mieux qu'avant. Et on sait que les problèmes de santé mentale sont en partie l'origine de certains comportements criminalisés. Mais encore là, quand on parle de comportements criminalisés, qui sont définis dans le code criminel, ce qu'on peut constater par un regard, je dirais même superficiel, de qui est en prison, eh bien, on constate qu'il y a peu d'avocats, de médecins, d'ingénieurs.
Il y a peu de bandits en cravate.
C'est ça.
Il n'y en a pas beaucoup.
On peut voir que les gens saisis par le système, c'est une catégorie particulière de ouais, personnes. Et ce sont en général des gens qui n'ont pas beaucoup de pouvoir au sein de la société. Et par conséquent, on peut voir que le fonctionnement des régimes judiciaires sont faits de cette manière-là, de manière très consciente. Il y a un article du Code criminel qui vise à sanctionner les voleurs, ceux qui ont commis des vols. Tout le monde sait qu'évidemment, le vol n'est pas nécessairement ce qu'il y a de mieux à faire. Mais ce qu'on constate, c'est que le début de l'article qui permet la sanction commence par une réflexion ou, disons, une phrase qui permet de dire que selon le type de crime et selon le type de loi, bien, on va juger si on va utiliser ou pas le code criminel. Pour donner un exemple clair, si vous allez dans un magasin, vous faites un vol à l'étalage, vous êtes pris, bien, vous êtes judiciarisé. Oui. Mais le commerçant qui fait de la publicité trompeuse, donc qui vole le client, bien, lui, il va être éventuellement poursuivi par la loi sur les pratiques commerciales qui n'a rien à voir avec le code criminel. Et si le magasin est condamné, il n'y a personne comme individu qui est condamné. C'est une corporation.
Ouais. Il n'y a personne qui va aller en prison.
Il n'y a personne qui va en prison pour ouais, ça, au pire. Pour eux, c'est une amende oui, qui est répercutée sur les
donc,
bénéfices.
Donc, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a double standard par rapport à, justement, à l'application du code criminel?
Bien, c'est-à-dire que le code criminel...
Ou plusieurs standards.
Bien, c'est-à-dire que le code criminel est un standard
mm-hmm,
et d'autres lois sont pour d'autres personnes. Donc, on a plusieurs systèmes. Ouais. Par exemple, les médecins qui ne respectent pas un protocole lors d'une une opération et que le patient décède, il n'est pas poursuivi par le code criminel pour négligence. Il est poursuivi éventuellement par le syndic du Collège des médecins. Et au pire, il va être interdit de pratique. Alors, on voit que c'est mis en place dans la société des mécanismes de contrôle des comportements.
Qui sont différents selon les individus. Ouais,
le pouvoir de ces individus.
Ouais. Tout à fait. Vous préconisez maintenant une approche dite non contrôlante pour une réintégration sociale réussie. Qu'est-ce que ça veut dire exactement?
Mais ce qu'on constate, c'est que les gens qui sont saisis par le système de justice, qui sont incarcérés, qui sont contrôlés justement par le système correctionnel et le système de justice, d'abord, n'ont pas confiance dans le système,
mm-hmm,
réagissent au système compte tenu de ce qu'ils ont subi Et compte tenu aussi du fait que les gens incarcérés n'ont pas accès à des services pour apprendre un métier éventuellement, pour pouvoir, au moment de leur libération, entamer une nouvelle vie, si on veut. Parce que tout est mis en place pour les freiner. D'abord, le casier judiciaire.
Ben
quand
oui,
vous avez un casier judiciaire, vous êtes interdit de travail pour des centaines de milliers d'emplois.
Ça va pas bien pour prendre sa vie, hein?
C'est ça.
On peut retomber dans quoi on était avant. Par exemple, le commerce illicite. C'est facile.
Les gens sont poussés à rester dans même milieu dans lequel ils sont et n'ont pas les ressources pour pouvoir éventuellement s'en sortir. Donc, ce qu'on a constaté, c'est que après que les gens aient passé par la prison, reprendre une vie civile normale, c'est souvent très difficile, compte tenu du passé, compte tenu des carences que les gens peuvent avoir sur le plan de santé mentale, par exemple,
ou affective, ou matérielle, ou
éducationnelle. Ouais. Je veux dire, si les gens, on sait, en prison, la plupart n'ont pas de secondaire 5. Donc, pour essayer d'arriver à enclencher un processus chez ces gens-là de prise en main de leur propre vie, c'est l'approche non contrôlante qui est la plus efficace. C'est pas efficace à 100% ou ça prend du temps. Mais le fait d'aborder les personnes en leur disant qu'est-ce que seraient vos intérêts? Qu'est-ce que vous voudriez faire, réaliser d'ici 2 mois, 3 mois, 4 mois, en fonction de votre réalité? Et là, les gens vont nous dire, on voudrait avoir, un permis de conduire, commencer des études, avoir notre carte d'assurance maladie, toutes sortes d'aspects très, très matériels, très concrets.
Bien, et leur apporter votre aide.
On va les aider. Oui, c'est ça.
Parce que des fois, il y a des démarches à faire qui ne sont pas si évidentes que ça. Hein?
Exactement.
Remplir un formulaire infini, complexe, sur le web, alors qu'on peut aussi souffrir de littératie, d'illittératie, je ne sais pas, de manque de littératie numérique. Ce n'est pas évident pour tout le monde. Donc, on est pris au piège un peu.
Puis aussi, ils n'ont pas nécessairement ordinateur, téléphone pour pouvoir le faire. Donc, nous, on les aide. On ne fait pas pour eux.
Mm-hmm.
On les aide à ce qu'ils le fassent. Qu'ils prennent. Le but, c'est qu'ils puissent reprendre leur vie en main et reprendre leur autonomie personnelle en fonction de leur capacité. Parce que, je veux dire, des gens qui ont passé 20 ans en prison, la société a beaucoup changé en 20 ans.
Oui.
C'est pas nécessairement facile de s'adapter. Donc, il faut tenir compte de ce décalage auquel les gens sont confrontés.
Oui.
Je veux dire, 20 ans en prison, c'est 20 ans dans un milieu où tu ne peux prendre aucune initiative. C'est pas toi qui décides ce que tu manges, ce que tu portes comme vêtements, à l'heure à laquelle tu te lèves, éventuellement si tu as une activité. Donc, tout est contrôlé. Ce qui fait que les gens doivent réapprendre à reprendre le contrôle de leur propre vie.
En terminant, je pose une dernière question sur cet événement-là, ce décès de Nikos Dandré Spring, c'est son nom, cet homme de 21 ans qui est décédé à la prison de Bordeaux. C'est le 24 décembre en plus, la date de son décès. Est-ce qu'il y a des organisations, puis si vous le savez pas, vous me dites « je sais pas », est-ce qu'il y a des organisations qui effectuent des pressions pour qu'on en sache davantage sur ce qui se passe à l'intérieur des prisons?
Il y en a peu. Il y en avait un qui s'appelait l'Office des droits des détenus, qui, pour toutes sortes de raisons, a cessé ses activités. Mais effectivement, il y a peu d'organismes comme tels. Le problème majeur que rencontrerait un organisme qui voudrait se consacrer strictement qu'à informer le public sur ce qui se passe dans les prisons, eh bien, c'est le financement.
Ben oui.
Et les organismes qui viennent en aide comme nous aux ex-détenus, à leurs familles, eh bien, si on allait trop loin dans nos discours, eh bien, c'est le financement étatique qui va être coupé.
Ouais.
Alors, c'est ça l'enjeu, c'est que on est dans une démocratie, mais pour pouvoir agir, il faut de l'argent. Ça veut dire qu'il faut avoir une conception du capitalisme pour pouvoir jauger nos comment je pourrais dire, nos capacités d'intervention.
Oui, ouais. C'est fort intéressant ce que vous dites. J'aimerais vous réinviter peut-être là-dessus. Il y aurait de quoi dire, en tout cas.
Ah, je pourrais vous parler pendant des heures.
C'est bon. Merci beaucoup, Jean-Claude Bernheim, président du conseil d'administration de la société John Howard, dans le cadre de cette chronique du REPAC. Merci d'être venu faire un tour. Bon retour à pied.
Merci.
Fait pas trop
lettre, là. Fait non,
beau.
Il fait très bien. On est très bien.
Super.
Café, radio et éducation populaire, une chronique pour mieux connaître les organismes citoyens des régions de Québec et Chaudière-Appalaches, une présentation du REPAC 0312.